Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jean
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Je désire vous partager un message à partir du passage de Colossiens, chapitre 1. À partir du verset 9, c'est une prière que Paul priait, une merveilleuse prière, très très riche en enseignement.
C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients.
Merci Seigneur. Là, effectivement, nous voyons dans ce passage qu'il est question d'abord d'être rempli. Et on va revenir justement à ce « pour » que tu mets en évidence. On veut remplir quelque chose, un récipient quelconque, il faut une condition de base, c'est qu'il y ait de la place. Si dans ma vie, il n'y a plus de place parce que je suis déjà rempli de toutes sortes de choses, je ne peux pas m'attendre à ce que le Seigneur me remplisse. Il s'agit là d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Être rempli. La question déjà que je vous invite à vous poser aujourd'hui, de quoi est-ce que je suis rempli? Il y a dans ce passage une exhortation. Sois rempli. Paul prie, intercède en faveur de l'Église, en faveur des Colossiens, dans le but qu'ils soient remplis. Si dans ma vie, je suis rempli d'autre chose que de la connaissance de sa volonté, je ne peux pas vivre en étant rempli de cette connaissance. Et il ne s'agit pas simplement de faire le vide en enlevant les choses mauvaises. Bien entendu, nous devons nous dépouiller de l'ancienne nature, nous devons nous débarrasser de ce qui nous encombre, des choses mauvaises qui nous encombrent. Mais on doit aussi se dépouiller des choses peut-être qui sont bonnes en soi, mais qui nous encombrent. C'est cette notion de comprendre ce qui occupe la place de ce que le Seigneur voudrait nous remplir. Et j'étais vraiment touché par cette notion de être rempli. Alors c'est vrai que on peut imaginer qu'à un moment donné on se dit d'accord, il va peut-être falloir que je me libère ou que je renonce à certains aspects de ma vie, à certaines passions qui ne sont pas forcément mauvaises, mais il va falloir que j'y renonce pour laisser plus de place au Seigneur. Et ça peut paraître très difficile. Alors là, il y a quelque chose à comprendre à mon avis. Bien entendu, il y a cette notion de gérer notre chair, de lutter contre notre chair, donc de faire preuve d'une certaine discipline. Donc là, il y a un effort à fournir. Mais je ne pense pas qu'il y ait uniquement cette dimension-là. Je crois qu'il y a une autre dimension que l'on voit bien quand Paul nous parle, juste quelques pages avant, dans Philippiens, au chapitre 3 et au verset 8. Paul dit, « Et même, je regarde toutes ces choses » et il se réfère à toutes les qualités, tous les attributs qu'il a pu, toutes les caractéristiques qu'il avait dans le naturel. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance. Pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Soyez remplis, Paul renonce à tout. Il a fait le vide. Et dans ce récipient vide, le Seigneur déverse toute la connaissance. de sa volonté. Pour lesquels donc j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Imaginez-vous en train de ramasser des pierres qui vous plaisent. Vous êtes dans un endroit au bord d'une rivière et vous regardez les petits galets et vous les choisissez les uns après les autres pour je ne sais quelle raison et vous remplissez une petite besace à côté de vous et vous la remplissez peu à peu. Vous avez choisi des petits galets, des petites pierres en fonction de la forme, en fonction de la couleur et ça vous plaît. Ce sont de bonnes choses. Et à un moment donné, votre sac est plein. Il est temps donc d'arrêter, vous ne pouvez plus rien rajouter, et à ce moment-là, vous tombez sur une pépite d'or. Une grosse pépite d'or. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va être difficile pour moi de me débarrasser des quelques cailloux que j'ai ramassés avant pour faire de la place à cette pépite d'or? Et je crois que c'est exactement ce que Paul explique là. Il a pris conscience de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et alors, il s'est dépouillé du reste. Et vous pensez que ça a été un gros effort? Est-ce qu'il a fallu qu'il lutte contre sa chair? Donc je pense qu'il y a ces deux dimensions à prendre en compte. Oui, effectivement, il est nécessaire de gérer sa chair. Il est nécessaire à un moment donné de renoncer, de mettre les choses à leur place, dans l'ordre des priorités, par rapport au temps que nous avons, par rapport à l'énergie que nous consacrons pour telle et telle chose. Mais il y a l'autre dimension qui est celle de la révélation, de l'importance, de la valeur, de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et plus on grandit dans cette connaissance, dans cette révélation, et moins il est difficile de se dépouiller du reste. Moins il est difficile de se décharger de ce qui nous encombre. Sois rempli de la connaissance, de sa volonté. On va continuer. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ça. On va revenir tout à l'heure à cette notion d'être rempli. On va se concentrer maintenant sur la connaissance de sa volonté. Alors sans partir bien loin, vous savez qu'il existe deux types. Il y a la volonté générale de Dieu, celle que l'on trouve dans la parole. Il y a des questions pour lesquelles on n'a pas besoin de recevoir une révélation. Si tu te poses des questions quant à la volonté de Dieu vis-à-vis de la guérison, la réponse, elle est dans la parole. Donc il n'y a pas besoin d'une assistance particulière du Saint-Esprit pour recevoir une révélation. L'assistance du Saint-Esprit sera nécessaire pour pouvoir nous convaincre que ces choses-là sont vraies. Mais ça se trouve dans la parole. Pour savoir avec qui je dois me marier, il y a des principes dans la parole. Ne pas s'unir avec quelqu'un qui n'a pas le cœur soumis au Seigneur. Le fait de se marier avec quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Dieu risque d'aboutir à un couple qu'on peut qualifier, je dirais, de mixte, mixte dans la vision, avec un manque d'unité dans la vision qui va avoir un impact sur tous les aspects de la vie, les aspects les plus simples de la vie quotidienne. Donc la Bible nous le dit. Là-dessus, il n'y a pas besoin de recevoir une révélation. Par contre, dans la Bible, on ne va pas trouver le nom spécifique de la personne avec qui on va se marier. Et là, on arrive dans la volonté spécifique que Dieu a pour nous. Et c'est la même chose pour les personnes qui arrivent à un stade, je pense à Naomi, en fin de formation, enfin en fin d'études scolaires, il y a des choix à faire par rapport aux facultés, par rapport aux écoles, qui va avoir un impact sur toute la vie, parce que là, on oriente sa vie. Quel type d'études je vais faire? Quel métier je vais choisir? Ce ne sont pas des décisions simples, ce ne sont pas des décisions qu'on peut prendre à la légère. Et là, dans la parole, il n'y aura pas forcément la liste des écoles disponibles. On va être dans la volonté spécifique de Dieu. Là, on a besoin de révélation. Et le Saint-Esprit nous la communique, parce que Dieu connaît la réponse. Donc, passer du temps dans la parole, voir si les projets que nous avons sont en ligne avec la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans la parole, et ensuite, passer du temps dans la prière, dans une attitude d'écoute, prier en langue, de sorte que l'Esprit, comme nous l'a si bien expliqué John Bevere dans son livre, pour que le Saint-Esprit puisse nous communiquer en parlant, en s'adressant à notre esprit. C'est là que le parler en langue prend toute sa signification. Il n'y a pas que ça d'ailleurs dans le parler en langue. Mais voilà une des raisons pour lesquelles il est bon surtout que face à une décision importante, de passer du temps dans la prière. Parce que là, il y a la révélation spécifique, la révélation de la volonté spécifique de Dieu pour nous. Et ça nous conduit à parler de notre appel. Il est important, et je pense que le Seigneur nous l'a dit à plusieurs reprises, de façon très très nette cet été, identifie ton appel. Si ton appel n'est pas clairement identifié, tu risques, tu t'exposes à ne pas vivre le plan de Dieu pour toi. Vous savez, le Seigneur nous a équipés, il nous a donné des talents. Tout à l'heure, on a parlé de participer, que chacun reçoive, participe. On a besoin de s'édifier, de s'exhorter les uns les autres, mais ce n'est pas en restant chacun dans son coin que ça va pouvoir se faire. Les choses ne vont pas forcément se transmettre par télépathie. À un moment donné, il va falloir se lever et ouvrir la bouche et puis dire les choses, de sorte qu'elles soient communiquées aux autres. Parce que le Seigneur a un appel spécifique et il dépose des choses spécifiques dans notre vie. Ça, je le ressens très très fort. Si je n'identifie pas clairement l'appel dans ma vie, je vais passer à côté du plan de Dieu. Alors le Seigneur va me bénir, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour moi, mais ça va changer de façon radicale à la manifestation de tout ce qu'il a prévu, la réalisation de son plan, avec tout ce qu'il y a de prospérité, de bien-être, et tout ce qu'il y a d'efficacité. Et j'avais un schéma qui me venait cette semaine. Je pensais un petit peu à ce schéma que tout le monde connaît plus ou moins, on dit voilà, on va tracer un cercle, et puis dans le cercle, se trouve la volonté de Dieu. Donc le but du jeu, c'est de rester au centre du cercle, à l'intérieur du cercle, pour pouvoir vivre, accomplir uniquement ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. Quand on regarde le schéma, il y a deux espaces, enfin, il y a deux surfaces. Il y a la surface qui est contenue à l'intérieur du cercle, la volonté de Dieu, et puis il y a la surface qui est contenue à l'extérieur, toute cette grande surface. On s'imagine dans un plan, d'un point de vue mathématique, un plan c'est infini. Dans l'infinité des possibilités de ce que je peux vivre, il y a un cercle, et à l'intérieur de ce cercle se situe la volonté de Dieu pour ma vie. Je parle de volonté spécifique, je parle de tout ce qui constitue l'appel qui est le mien. Si je ne suis pas à l'intérieur du cercle, je manque l'objectif. Et ne croyons pas qu'à l'extérieur du cercle, on n'y trouve que des choses comme péché, mauvaises actions. Il n'y a pas que ça. À l'extérieur du cercle, il y a de bonnes œuvres, des actes d'amour, des choses merveilleuses auxquelles le Seigneur ne m'a pas appelé. De bonnes choses, mais qui sont à l'extérieur du cercle. Et si je me livre à la pratique de ces choses, si j'oriente ma vie vers ces objectifs, je m'expose à vivre quelque chose pour lequel je ne suis pas équipé. Si je commence à construire un bâtiment alors que je n'ai pas été appelé à le faire, ce n'est pas Dieu qui va le construire. C'est moi, tout seul. Et là, je m'expose à deux choses. La première, souffrir, dépenser beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément reçu l'équipement pour cette tâche précise. Alors je me fatigue et je travaille. Et pire que ça, c'est la deuxième chose, je risque de prendre la place de celui qui avait cet appel. Autrement dit, il va y avoir échec. Le plan ne va pas pouvoir se réaliser parce que je me suis mis à la place de quelqu'un d'autre. Au lieu d'être un instrument entre les mains de Dieu, je suis le petit grain de sable dans l'engrenage, alors que l'œuvre était bonne. Je pense qu'il est important, quand on cherche à identifier notre appel, qu'on y réfléchit, de considérer que les choses qui se présentent dans les circonstances durant notre vie ne doivent pas être analysées uniquement en termes de « est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ?» Oui, bien sûr, ça c'est un premier critère d'analyse, bien sûr. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que cette bonne chose est quelque chose que le Seigneur me demande de faire ou pas ? Si le Seigneur ne m'a pas demandé à le faire, alors je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire dans cette œuvre, rien du tout. Et pendant que je serai en train de de dépenser mon énergie, mon temps, mes talents dans cette œuvre, je ne serais pas en train de la mettre à profit dans le plan, dans l'œuvre que Dieu avait prévue pour moi initialement. Et ce schéma-là, essayez de le garder en tête et de vous positionner par rapport à ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de grandes œuvres missionnaires. Il s'agit d'identifier son appel dès lundi matin quand on se rend au travail. Des petits choix. Vous avez remarqué que parfois que dans les témoignages époustouflants de grandes œuvres du Seigneur, il y a des petits éléments, des tout petits éléments, des petits détails. Et amusez-vous à analyser un petit peu ces témoignages et puis changez juste un détail, une petite anecdote, un tout petit détail. Du style, ce matin-là, plutôt que de descendre par les escaliers, j'ai décidé de prendre l'ascenseur. Parfois, des petits détails aussi insignifiants peuvent faire toute la différence. Ça peut être suffisant pour faire avorter et rendre stérile ce qui était potentiellement possible, ce que le Seigneur a rendu potentiellement possible. Et il y a cette œuvre glorieuse à la croix, il y a cette œuvre glorieuse au travers du Saint-Esprit, mais l'œuvre de Dieu, et ça j'en ai vraiment pris conscience cette semaine, ne pourra pas s'accomplir dans notre vie, dans notre Église, et de façon générale dans notre pays, si on ne se tient pas vraiment exactement à notre place. Et ne crois pas que renoncer à une impulsion du moment, par exemple être attiré par une œuvre qui ne correspondrait pas vraiment à ton appel, va générer en toi une grosse frustration. Oui, peut-être sur le moment, il va peut-être falloir que tu renonces, mais tu renonces à un caillou pour une pépite. Et c'est pas juste au ciel, quand tout sera fini, que tu t'en rendras compte. Il y a des choses pour lesquelles tu réaliseras comme ayant été la bonne décision pendant ta vie sur Terre. Ça se trouve dans les semaines qui suivent, ou dans les mois qui suivent. Et puis même si jamais tu te rends compte, l'œuvre de Dieu a été accomplie. Et c'est là qu'on entre dans un processus de réelle prospérité. Parce qu'on n'est pas en train de chercher la prospérité, que ce soit dans notre vie affective, dans notre vie financière, dans le statut que l'on peut avoir. Toute cette prospérité-là, toutes ces choses que le Seigneur veut nous donner ne sont pas le but que l'on recherche. Ce sont des choses que le Seigneur nous donne par-dessus. Parce qu'il est un Dieu généreux. Et plus que généreux, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant la parole, en entendant des témoignages, mais quand le Seigneur bénit, c'est en général un seau d'eau alors qu'on a besoin d'un verre. C'est une piscine alors qu'on a besoin d'un seau. Il est toujours au-delà. Il nous donne ce dont on a besoin et plus encore. Et ça me conduit vers cette notion très dure à comprendre. Le Seigneur, infini, majestueux, celui qui est au-delà de tout nom, habite en moi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment est-ce que ça peut être possible? Moi qui suis un être fini, je suis un contenant avec des limites. Comment est-ce que je peux contenir un Dieu infini? Comment est-ce possible? La réponse, elle se trouve dans le spirituel, dans le surnaturel. Et une grande partie reste un mystère, quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément compris. J'ai pensé à plusieurs pensées me sont venues par rapport à ça cette semaine. Je pense que comment est-ce qu'un Dieu infini peut venir habiter en moi qui suis fini? D'une part, quand Dieu commence à prendre la place dans ta vie, il augmente ta capacité, il augmente ton volume, ta capacité à contenir. Et il y a autre chose. Quand on reçoit de Dieu, nos parois ne sont pas étanches. Ça transpire, ça passe au travers. Et plus encore, ce sont carrément des flots qui vont jaillir. Tout ce que le Seigneur dépose en nous, tout ce que le Seigneur nous donne, ça va rejaillir sur les autres. Et c'est comme ça qu'il y a ce foisonnement de la vie de Dieu, la bénédiction qui se répand sur nos proches, sur notre entourage. Et alors, au fur et à mesure que l'on reçoit, on donne. Et au fur et à mesure qu'on donne, eh bien, on se vide. Et alors, le Seigneur peut remplir à nouveau. Et on est dans quelque chose qui bouge. On n'est pas dans du statique. On est dans quelque chose qui bouge. On est tout simplement dans quelque chose de vivant. Dieu est à la source de la vie. Et j'ai été béni quand j'ai pensé à ces choses. Quand j'ai pu avoir ces pensées à la suite de ces versets. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas là de sagesse et intelligence naturelle, il s'agit d'une intelligence et d'une sagesse surnaturelle. Pour pouvoir avoir accès à cette intelligence surnaturelle, il nous faut avoir une compréhension éclairée de la parole. On a besoin du Saint-Esprit, on dépend du ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Et on a aussi, on reçoit cette connaissance et cette sagesse par le biais de l'inspiration du Saint-Esprit, les révélations directes, et là encore, le temps que l'on passe à ses pieds. Pas forcément en parlant, il y a des moments où on parle, des moments où on parle fort, puis des moments où on reste silencieux, des moments où on va simplement mettre de côté notre intellect, et puis parler en langue, et on laisse l'Esprit exprimer en nous ce dont on n'est pas capable, par rapport à des projets qui nous dépassent complètement. N'oublions pas que celui qui habite en nous est le Dieu infini. Ça nous dépasse. On ne peut pas concevoir ses plans. On ne peut pas concevoir qui il est. C'est impossible. Et le fait de limiter notre connexion avec le Seigneur à une sagesse naturelle, c'est nous exposer à passer à côté de ce qu'il a prévu de faire. Parce que ce qu'il veut faire en nous, nous dépasse complètement. Attachons-nous à identifier notre appel. Attachons-nous à être remplis de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté. Par rapport au fait d'être rempli de l'Esprit, par rapport au fait d'être disponible pour pouvoir exprimer ce que le Seigneur nous donne, je pensais à la manifestation des dons spirituels dans l'Église. C'est le plan de Dieu que les dons spirituels se manifestent. Les dons spirituels comme des paroles de connaissance, des prophéties, des paroles de sagesse, des guérisons. Ces choses-là, le Seigneur veut qu'elles se produisent dans notre Église. Mais si on reste... Et ça, je pense que c'est le biais dans lequel on est tombé. Ne nous installons pas dans cette attitude de passivité. Parce que je suis persuadé que la plus grande partie d'entre nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu pour cette Église, que les dons de l'Esprit se manifestent. Et ils se manifestent déjà en partie. Lorsque le pasteur Tim interprète une parole en langue de Vicky, par exemple. Ça, c'est un exemple tout à fait simple. Direct de la manifestation des dons. Ne laissons pas ces choses réservées à quelques-uns. Et ça fait peur de pouvoir exprimer les dons spirituels. Et c'est là où je veux en venir. Si je ne suis pas rempli de cette connaissance et de cette sagesse et intelligence spirituelle, je ne vais pas pouvoir identifier une parole de connaissance que le Seigneur me donne. Si je reste dans le domaine naturel. Parce que si je reste dans le naturel, il va falloir que je contrôle avec mon intellect. Donc, comme je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, de ne pas être un charlatan, je ne vais pas me lever pour prononcer avec autorité une parole de connaissance sans que j'en ai la certitude dans mon cœur. Et on en est tous au même stade par rapport à ça. Comment faire pour être sûr que la parole que Dieu me donne va être une parole qui va pénétrer au fin fond du cœur de quelqu'un, d'un visiteur peut-être. Vous imaginez un petit peu cette réalité? La personne vient pour la première fois à l'église, un inconnu se lève et prononce une parole. Et la personne est touchée à l'intérieur. Là, on surfe dans l'esprit. On est en train de vivre la vie de l'église dans le flot de l'esprit. On n'est plus en train de se réunir et de tourner nos regards vers le Seigneur, le louer, et c'est tout. Le Seigneur veut agir puissamment. Vous savez, si on veut vraiment que les personnes se tournent vers le Seigneur, il va falloir être une lumière. Et cette lumière, il faut qu'elle brille, mais si cette lumière brille, mais qu'elle est cachée, qui est-ce que ça va attirer? On va se fatiguer à faire de l'évangélisation, à mettre plein de panneaux en disant « Eps, là il y a de la lumière, regardez, bon on la voit pas parce qu'il y a un boisseau dessus, mais je vous assure, là il y a de la lumière, il y a de la vie là-bas. » Et on va se fatiguer à faire de l'évangélisation, à faire des tracts, mettre des panneaux d'indication, etc. Il s'agit simplement de briller. Si ça brille, les gens viennent. Ça se passe dans le naturel. On est attiré par la lumière, parce que la lumière, la soif de la lumière, c'est la soif que n'importe quel être humain a dans son cœur. Et c'est Jésus la réponse. Si on le laisse s'exprimer complètement, il n'y a aucun effort à faire pour pouvoir accomplir cette œuvre de répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est autosuffisante. Elle n'a pas besoin de nos capacités oratoires et de notre ingéniosité en tant que publicitaire. L'évangile est une puissance en soi. À nous, par contre, de le laisser se manifester réellement. Et là, oui, on va commencer à avoir le réveil. Mais si on n'entre pas dans cette dimension-là, je pense que on va aller de frustration en frustration, ou pire encore, on va finir par s'endormir et accepter que rien ne se fasse. En sortant la carte joker, ce n'est pas encore le temps. Et alors toutes les prophéties qui nous parlent de réveil, on y croit, on va y adhérer, réellement avec un cœur sincère, mais on ne va pas le voir se réaliser. Il y a cette notion de réveil. Et cette notion de réveil est possible uniquement si on est dans l'esprit et qu'on l'autorise à agir. Je reviens un petit peu au don spirituel. Une personne ici présente reçoit une parole de connaissance. Si ce frère ou cette sœur a limité sa vie à une compréhension naturelle, en s'appuyant sur son intelligence et sa sagesse naturelle, ici il est question de connaissance, non, de sagesse et d'intelligence spirituelle. Là on est dans le surnaturel. Si je me limite au naturel, je n'ai pas à avoir la certitude que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Je ne vais peut-être même pas y penser. Je ne vais peut-être même pas m'en apercevoir. Ou alors, après cette prédication, on va dire, ok, je vais peut-être essayer de rester attentif. Alors peut-être que vous allez recevoir une parole. Mais si on n'est pas dans le surnaturel, on ne va pas oser. On va attendre une preuve. Mais quel type de preuve peut nous donner l'assurance que cette parole vient de Dieu? Tant qu'on est dans le surnaturel. Tant qu'on est dans le naturel. On ne va pas recevoir un fax. Puisse avoir une certitude, un SMS, quelque chose de concret pour se mettre sous la dent. Le Seigneur ne va pas agir comme ça. Le Seigneur nous donne l'assurance de façon spirituelle. C'est dans notre esprit. Mais si je ne développe pas la conscience de mon esprit, je ne vais pas être en mesure d'identifier tout ça. Et donc, je vais passer à côté. Moi, je vais passer à côté. Le visiteur va passer à côté. Vous imaginez un petit peu la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre de conviction dans le cœur, une vie changée, avec tout ce qu'il peut y avoir comme résultat, une avalanche de résultats. Et on passe à côté juste à cause de ça. Et ça se passe pendant la semaine, ça se passe dans notre vie quotidienne. Ne crois pas que ça soit réservé à ceux qui travaillent à plein temps pour le Seigneur, c'est faux. C'est faux. Ça se passe pour chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Que tu ailles au travail. Ça peut t'arriver dans le métro, ça peut t'arriver dans le RER. C'est juste une question de décision, d'attitude, de cœur. L'église doit être un endroit où la gloire de Dieu se manifeste. Tout à l'heure, Denise a insisté sur le petit mot « pour », qui effectivement n'est pas présent dans toutes les traductions. Il est intéressant justement, quand on lit un verset ou quand on l'étudie, de balayer un petit peu différentes traductions. J'ai remarqué que la plupart du temps, c'est souvent entre la Louis II, quelle que soit la version de la Louis II, et puis une autre version comme la Semeur ou la Français Courant. Et quand on met les deux ensemble, ça fait déjà un bon petit balayage. Il y en a tellement d'autres encore. Il y a ici, dans la version seconde, la plus ancienne, celle de 910, pour. Alors, Paul prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pour marcher d'une manière digne. Pour marcher. Vous avez remarqué que c'est dans le but de marcher et non pas simplement dans le but d'être. Être guéri, être sauvé, être libéré, être justifié. Être, oui, mais être pour. Sinon, l'église devient un petit club de rencontre où on est bien ensemble. Jolie moquette, siège confortable, avec des orateurs qui viennent des États-Unis de temps en temps, de bonnes prophéties. Et on reste dans une église qui existe pour être une église. L'église pour l'église. Alors que l'église n'est pas faite pour vivre une petite vie communautaire. Patrick Fontaine parlait des chrétiens qui sont dans leur aquarium. Il y a des petits aquariums, puis chacun reste dans son petit écosystème. L'église est une plateforme, c'est comme ça qu'on doit la voir. une plateforme, un centre de formation. C'est un centre d'envoi. C'est un centre d'accueil. C'est une plateforme, une plaque tournante, un carrefour. Il y a des allées-venues. C'est ça l'Église. Si on n'est pas dans cette dimension, si on n'est pas dans ce processus, on est une Église qui dort. Et quelle que soit la sincérité avec laquelle on accueille l'enseignement. Et je pense que nous sommes sincères. Nous accueillons sincèrement l'enseignement et le bon enseignement qui est dispensé à CVC, dans cette Église. Vous savez, on peut prendre une autre image. Je travaille en milieu hospitalier. Il m'arrive d'aller de temps en temps en réanimation. Et là, on voit des gens qui sont dans le coma. Quand on est dans le coma, les fonctions vitales sont encore en marche, mais la personne n'est plus en interaction avec l'extérieur. Elle est coupée du monde. On ne sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs. Et donc, il y a des différents tests que les médecins font pour évaluer un petit peu l'état de la personne et sa capacité à être en relation avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la stimulation douloureuse. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est ce qui se pratique. Quand on évalue un petit peu l'état neurologique de la personne, on effectue un geste, on lui fait mal, on le pince. On prend au niveau du pectoral, on pince et on fait une petite torsion. Ouh, ça fait mal. En principe, quand on fait ça à quelqu'un, il y a une réaction. Donc la personne qui, bien que dans le coma, qui n'est pas capable de parler, il n'y a pas de contact visuel, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, mais si elle réagit un petit peu, ah, c'est bon signe. Si quand on pince, qu'on tord, il n'y a pas de réaction. C'est ça, hein? On entend tout, 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 on entend les bruits. Vous êtes déjà allé en réa? Plein de machines, c'est pas un endroit très agréable quand on est obligé d'y aller. Ou surtout même quand on est, je les vois, les familles, c'est très 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 dur, c'est une grosse épreuve. On y va de façon un peu plus détachée quand on travaille en milieu hospitalier, parce qu'il n'y a pas le lien émotionnel, affectif. Mais on sent cette ambiance qui est très très chargée. Et là, il n'y a aucune réaction. Et ça, c'est un mauvais pronostic. C'est pas bon. Absence de réaction à la stimulation douloureuse, c'est pas bon. La question que je me pose, c'est combien y a-t-il de stimulation douloureuse ici, à l'Église, à laquelle on ne réagit pas? Aucune douleur, aucune réaction. La manifestation des fruits, des signes. Il y en a beaucoup dans notre Église. La réaction que l'on a par rapport à une prophétie qui nous a été donnée en début d'année par Simone Potter, nous annonçant un réveil, mais pas simplement un réveil, mais un réveil extraordinaire, beaucoup plus grand que, c'était quoi là, je sais pas combien, les 30 dernières années. Vous imaginez un petit peu l'effet que ça nous a fait? Voilà, plus de gens sauvés dans les prochains 6 mois que depuis les depuis les 30 dernières années. Et quand il nous a donné cette prophétie, pour tous ceux qui étaient là, ça a généré beaucoup de joie. Vous imaginez un petit peu? Waouh! Aujourd'hui, il reste 4 mois avant la fin de l'année. Est-ce que ça nous fait mal ou pas? Est-ce que on s'attend à une prochaine prophétie pour essayer de réactualiser, rattraper? On demande une dérogation, un peu comme les RTT, on a le droit jusqu'à fin mars pour pouvoir les prendre, les poser. Ça marche pas comme ça. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on en a fait de cette prophétie? Est-ce que ça venait pas de Dieu? Je pense que si. Je pense que le Seigneur avait des plans, je pense que Simone Potter a parlé de la part du Seigneur ce jour-là. Alors c'est pas un message pour nous condamner. Mais juste pour réaliser qu'il y a, je pense, dans notre vie d'Église, des petites stimulations douloureuses. Le problème, c'est que si on est complètement anesthésié, on risque de ne pas s'exposer à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et j'ai vraiment ça à cœur. Si on est rempli de la connaissance de sa volonté, alors on va pouvoir marcher, parce que c'est le but. Et on va pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Et je voudrais, je n'ai pas envie de prêcher longtemps ce matin, et je vais juste finir par ça. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est marcher de façon efficace, parce que notre Seigneur est un Dieu efficace. Quand il a créé la terre, quand il a créé l'univers, il s'y est pas pris en plusieurs fois. Il y avait une parole, et la chose était créée. Il n'y a pas eu des coups pour rien. Le Seigneur n'est pas celui qui tente, ça rate, tant pis, on réessaye. Il ne bricole pas. C'est le Dieu trois fois saint, c'est le Dieu parfait. Si nous, qui représentons le Seigneur sur cette terre, nous ne marchons pas de manière efficace, nous ne marchons pas de manière digne du Seigneur. Je ne pense pas que nous lui sommes agréables. Et pour être digne du Seigneur dans nos œuvres, il s'agit d'être efficace. Mais je ne vais pas pouvoir être efficace si je m'appuie uniquement sur mes propres forces. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'endormir un petit peu à peu, non pas de manière volontaire, non pas parce que je démissionne officiellement, mais peu à peu, c'est ce qu'on est en train de vivre. On se met un petit peu en retrait. Et puis les stimulations douloureuses ne nous font pratiquement plus réagir. On finit par entrer dans un rythme. Voilà, bientôt il va y avoir la conférence, ranimer la flamme, qui au fil du temps risque de se transformer en réanimer la flamme, et on s'installe comme ça. Alors que si on garde en tête la notion de marcher digne du Seigneur, alors on arrête de travailler en vain, on arrête de se lever tôt le matin ou de se coucher tard le soir, et on laisse Jésus bâtir la maison. Et là, ça devient efficace. Et on se retrouve par ce verset, par lequel on va conclure. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, et écoutez bien, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Là, on le voit bien. Porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il existe des bonnes œuvres qui ne portent pas de fruits, vu que le but ici, c'est de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Il est important que l'on décide de cesser de nous limiter à vouloir accomplir de bonnes œuvres. Je pense qu'il est important, nécessaire, grand temps de se décider de porter du fruit dans les bonnes œuvres. Si je m'implique dans une œuvre qui n'est pas la mienne, parce que je n'ai pas pris le temps d'identifier mon appel, si je m'implique dans un service pour le Seigneur sans m'attacher à développer l'esprit, la relation spirituelle, augmenter la sagesse et l'intelligence spirituelle dans ma vie, je m'expose à travailler en vain. Soit parce que je rate d'objectif, soit parce que je travaille sans bénéficier de l'onction du Saint-Esprit. Et je voudrais simplement que l'on conclue ce temps ensemble par un temps calme devant le Seigneur. On se mette à ses pieds. Et puis on considère ces choses-là, que chacun d'entre nous se pose la question. Est-ce que j'ai identifié mon appel? Ou est-ce que j'en suis dans le renouvellement de l'intelligence, dans cette recherche d'augmenter la sagesse et l'intelligence spirituelle? Et sachez que le Seigneur veut faire de vous des gens, des personnes particulières. L'ennemi, lui, veut nous distraire un maximum de ces choses-là, pour nous faire rater l'objectif, pour faire échouer le plan de Dieu. Il n'a pas pu le faire, d'ailleurs. Parce que si Satan avait su quel était le plan de Dieu lorsque Jésus est mort sur la croix, il ne l'aurait jamais mis sur la croix. Si Satan avait eu ne serait-ce qu'une once de l'intelligence du Seigneur, il n'aurait jamais crucifié Jésus. Parce que ça a signé de façon légale et définitive, sa perte. Donc il y a vraiment une puissance glorieuse. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, et cette puissance, il nous la transmet au travers de son esprit. C'est lui qui habite en nous. Si le Seigneur a la possibilité d'agir en toute liberté en nous, dans ce sens-là, alors là, les choses vont commencer, vont devenir sérieuses, on va jouer dans la cour des grands. On va rentrer dans ses plans. Le Seigneur veut un plan chacun, un plan précis, il est particulier. Satan, dans sa manière de lutter pour faire avorter un maximum de ses plans, va plutôt agir dans le sens de gommer les différences. On est dans une société où on essaie de les gommer au maximum. Tu es équipé pour un plan particulier. Il y a une destinée qui est la tienne, juste toi. Essaye de la saisir. Et je pense que ce temps-là, On va le consacrer pas longtemps, quelques minutes simplement, dans le silence, dans le calme. On va rester dans le silence. Ce ne sera même pas la peine de mettre un peu de musique ou autre. On va rester dans une relation de cœur à cœur avec le Seigneur et lui demander de nous éclairer, de nous aider à nous positionner. Il ne s'agit pas d'un message de condamnation, un message au contraire qui nous invite à aller plus loin par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Si ce message bouillonne dans ton corps, dans ton cœur, si ça vraiment ça fait écho en toi, alors saisis cette occasion, saisis-la. Consacre-toi ou reconsacre-toi au Seigneur. Réactualise cette consécration. Essaie de te positionner. Vous savez, c'est un geste très très simple qu'il suffit de faire. C'est entre vous et le Seigneur. C'est entre toi et ton Dieu. Simplement, laissez le Saint-Esprit montrer les domaines où... qui remplissent un peu trop ta vie. Il ne s'agit pas de renoncer aux loisirs. Le Seigneur désire que nous soyons heureux, que nous vivions une vie agréable. Les loisirs ont leur place. Il s'agit de savoir quelles sont les priorités. S'il y a un système de priorités qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors c'est le moment de le remettre, de prendre la décision, de laisser le Saint-Esprit agir, de te rendre docile à son action en toi. Et à partir de là, tu te positionnes et tu l'exprimes avec tes mots. Je pense que chacun d'entre nous, spécifiquement ceux qui sont touchés par ce message, chez qui ça résonne, peuvent se positionner devant le Seigneur et prier dans ce sens.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.